Voilà, je présente aujourd'hui donc Claude Weisbuch, qui va nous parler des semi-conducteurs et de tout ce qu'ils ont rendu possible. Il est né en 1945. Il est ancien élève de l'École normale supérieure, docteur d'État et sciences physiques, thèse obtenue en 1977. Son parcours, c'est un parcours à la fois de chercheur, il est actuellement directeur de recherche au CNRS, et de chercheur en entreprise, puisqu'il a été, il a travaillé au laboratoire Bell à Murray Hill aux États-Unis de 79-81 sur les puits quantiques. De 81 à 83, il était directeur de recherche en charge du pilotage des recherches exploratoires à la compagnie de Saint-Gobain. Il a été chef du laboratoire de physique à Thomson CSF de 83 à 92. Bon, et en même temps, il est enseignant puisqu'il a été maître de conférences de physique à l'école polytechnique en physique des solides de 84 à 96. Il a aussi occupé des responsabilités dans l'administration de la recherche, puisqu'il a été directeur scientifique à la direction de la recherche et de la technologie et conseiller scientifique de la délégation générale pour l'armement au ministère de la Défense. Ses travaux actuels portent sur le contrôle et la modification de l'interaction lumière-matière dans les matériaux nanostructurés, les microcavités et les cristaux photoniques, etc., etc. Il a, et ses publications, nombreux articles scientifiques et 5 livres en anglais, dont Quantum Semiconductor Structure, Academic Press, Boston, 91, et Confined Electrons and Photons, Plenum Press, New York, 1995. Dernière chose, il a reçu le prix Welker à Berlin en 99, et j'indique les raisons pour ses contributions fondamentales à la compréhension de la physique des structures semi-conductrices quantiques et le développement de nouveaux concepts en composants optoélectroniques. Voilà, donc pour parler des semi-conducteurs, je crois que c'est l'homme qu'il nous fallait.
Bien, merci Yves Michaud, bonjour. Je vais donc vous parler des semi-conducteurs aujourd'hui. Alors pourquoi s'intéresser aux semi-conducteurs? En fait, si on les regarde parmi tous les éléments, tous les matériaux, c'est des matériaux assez ternes, de propriétés assez peu intéressantes. Ils ont des conductivités électriques faibles. C'est parce qu'en fait, ils ont des conductivités électriques faibles qu'ils sont intéressants. J'essaie de vous montrer ça. Si on regarde l'histoire de la physique au cours du siècle, du XXe siècle, quand on fait des compilations, on essaie de trouver les grands moments historiques, on ne trouve pas de semi-conducteurs. Les gens, on trouve des chapitres dans des livres qui ont fait cette histoire de la physique au XXe siècle. On trouve des tas de choses. On trouve un petit peu de physique des matériaux solides. On trouve la théorie quantique du solide. On va trouver des choses sur les foules quantiques. On va trouver la supraconductivité, bien sûr, la superfluidité. On en a parlé au cours de ces quelques derniers jours dans cette université. Mais les semi-conducteurs, non. Par contre, il y a un chapitre sur le transistor. Alors le transistor, c'est un petit peu passé, mais ça a un tel impact, ça change nos vies et ça continuera à changer nos vies au XXIe siècle, que ça tient une place prépondérante dans l'histoire des sciences au XXe siècle. Alors je vais vous montrer quand même que c'est vraiment révolutionnaire et je vais essayer de faire une petite expérience en direct. Donc je vais aller sur le web et je vais interroger un serveur qui s'appelle Google. Et vous voyez tout de suite quelque chose de remarquable. Je lis l'index de Google à 1 milliard 60 millions de pages. Je suis en train de pouvoir aller voir 1 milliard 60 millions d'informations. Derrière chacune de ces pages, il peut y avoir des milliers ou des centaines de milliers de pages d'informations. Là, je vais m'intéresser au transistor. Donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe sur le transistor. Et coup de chance, j'ai vérifié avant, la première ligne s'appelle « L'histoire du transistor ». Et c'est un site internet qui a été créé par la chaîne de télévision publique aux États-Unis, qui a fait une émission pour le cinquantenaire du transistor, et donc qui a créé un site où il y aura beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir ce site, il est remarquable. Je vais un peu dans le multimédia, et je vais voir Brattain, je connais ce nom, je le connais parce que je connais l'histoire un peu du transistor, et je trouve Brattain. Et je vois dans Brattain, et je trouve dans Brattain, un document audio. Et voilà, en tapis de souris, nous entendons la voix de Brattain, l'inventeur du transistor, qui est interrogé en 1964 pour savoir s'il avait compris dès le début l'importance de son invention. Et il est en train d'expliquer, vous avez le texte à l'écran, il est en train d'expliquer que, effectivement, le soir du 23 décembre 1947, chose curieuse, des choses se passent toujours juste avant Noël, le soir du 23 décembre 1947, il avait démontré l'effet d'amplification du transistor. Il a dit à ses collègues qui rentraient avec lui en voiture, il leur a dit, aujourd'hui, j'ai fait l'expérience la plus importante de ma vie. Et elle était tellement importante, en fait, que le lendemain soir, il leur a fait jurer le secret, puisque l'invention du transistor n'a été rendue publique par les laboratoires Bell que 6 mois après. Donc, voilà une invention tout à fait extraordinaire, puisqu'elle permet d'acquérir ce document. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part, on a stocké l'information, on l'a manipulée et on l'a communiquée. Eh bien, tout ceci est rendu possible parce qu'on a codé l'information sous forme de paquets d'électrons ou de photons de lumière. Grosso modo, il faut quelques milliers d'électrons, quelques millions de photons, c'est très très peu. On sait manipuler parfaitement ces ensembles et cette manipulation est rendue possible par et uniquement par les semi-conducteurs. Donc c'est bien que toute la révolution de l'information est basée sur les semi-conducteurs. Alors, pour vous en parler, j'ai structuré mon exposé, je crois qu'on a fini avec ça, merci. Je vais vous donner quelques images et chiffres des semi-conducteurs. Aux origines de ces révolutions, la physique quantique des solides. Alors c'est aussi pour ça que les semi-conducteurs tiennent une place particulière dans l'histoire des sciences. C'est que d'abord, cette révolution, cette industrie immense, encore une fois, et qui modifie notre société, est venue de la physique la plus fondamentale, de la compréhension fondamentale des solides. La deuxième chose qui est remarquable, le deuxième caractère qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on fabrique des transistors par milliards, ils sont tous parfaits. C'est-à-dire qu'on comprend parfaitement, c'est une compréhension parfaite du système, on sait, on les comprend, on sait les modéliser, on sait prévoir parfaitement leurs propriétés, parce qu'on a une maîtrise absolue de la fabrication et de la compréhension des phénomènes à l'intérieur. C'est ce caractère parfait de ce qu'on fait qui est aussi extraordinaire. Encore une fois, quand on fabrique quand je dis des milliards, c'est des millions de milliards de composants à la fois. La troisième chose qui est importante, et je le montrerai, c'est que ces transistors sont nés dans une entreprise industrielle. Donc on a à la fois une entreprise industrielle qui avait un objectif qui a fait de la physique fondamentale pour avoir une application. Alors du coup, ça a été un paradigme, un double paradigme d'ailleurs de la recherche au XXe siècle. D'une part, il est bon de faire de la recherche fondamentale pour atteindre des applications de taille immense. Deuxièmement, il est bon pour les industriels de faire de la recherche fondamentale. Et ce paradigme, ce double paradigme, a dominé la fin du siècle. Je dois dire qu'on en est un peu revenu aujourd'hui. Donc, ayant parlé de l'origine des révolutions, je montrerai comment on passe du semi-conducteur au transistor et au circuit intégré. Ensuite, bien sûr, le physicien peut s'interroger que comment et pourquoi on peut arriver à diminuer, à pouvoir fabriquer ces transistors par milliards, mais aussi à un moment on se dit, mais jusqu'où cette course à la miniaturisation, à l'augmentation de l'intégration peut-elle aller ? Donc on va voir un petit peu les limites, et au fond on peut aussi s'interroger sur ce qui se passe au-delà des semi-conducteurs tels qu'on les connaît. Vous voyez que j'ai mis au-delà du silicium, parce que le semi-conducteur de référence, ça s'appelle le silicium. Il existe quelques autres semi-conducteurs qu'on utilise aussi, en particulier l'arsenure de gallium pour les télécommunications. Les lasers, ça ne marche pas avec du silicium, ça marche avec un autre semi-conducteur. Mais grosso modo, il y a deux semi-conducteurs et essentiellement le silicium qui domine. Quand on parle de semi-conducteurs, aujourd'hui, c'est le silicium. Mais le physicien se pose la question, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même communiquer et manipuler l'information avec autre chose que des semi-conducteurs? Et j'en parle un tout petit peu. Vous avez ici l'adresse d'un site web que j'ai créé, qui a quelques documents sur la microélectronique et surtout qui vous renvoie à un certain nombre de sites. Bien sûr, il y a une littérature abondante sur tout ce que je vais dire. Alors, encore une fois, la révolution de la microélectronique, elle se traduit par un nombre de transistors par puce au cours des années. Et on voit qu'on passe, alors évidemment c'est des échelles logarithmiques, on passe de 1000 transistors, 10 000, on passe à 1 milliard de transistors. Aujourd'hui, en l'an 2000, on a fait en laboratoire, et ça va sortir l'année prochaine en production, ça va être vendu, des puces qui contiennent 1 milliard 200 millions de transistors. Ce qui permet cette course à l'intégration, c'est ce qu'on appelle la largeur de trait, j'y reviendrai, c'est le plus petit dessin qu'on peut reporter sur du silicium pour faire des éléments, de transistors, des métaux, des conducteurs, je montrerai ce que c'est, où on est passé en 30 ans de 100 microns. Aujourd'hui, on en est à 0,18 microns, je montrerai ce que c'est qu'un micron, mais on a gagné typiquement un facteur 1000 dans chaque dimension, donc au carré ça fait un million, et puis on a amélioré un peu tout, et c'est ça qui fait le facteur de 100 millions à 1 milliard. Vous voyez qu'il y a des générations, il y a des points, on est passé de 1000 à 4000, 16000, etc. Il y a une croissance, c'est ce qu'on appelle les générations, il y a des générations de circuits intégrés. Tous les 3 ans, on change de génération. Bien sûr, si un industriel n'est pas en phase avec ses collègues, s'il en retarde 1 an, 2 ans, 3 ans, bien sûr, il a perdu la course. Ce n'est même pas la peine de rester dans cette industrie. En même temps, et j'expliquerai pourquoi, en même temps que l'on augmente la densité d'intégration, on va plus vite et au cours des années, on peut voir que la vitesse des microprocesseurs augmente. On est passé pour les premiers microprocesseurs de 1 MHz, 1 million de périodes en une seconde, à 200 millions. Vous voyez que ce transparent est un peu vieux. Comme vous le savez, aujourd'hui, on peut acheter des microprocesseurs, donc des ordinateurs, qui vont 5 fois plus vite. Un petit peu de terminologie. Ceci est une plaquette de silicium. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voici une plaquette de silicium dernier modèle, 300 mm de diamètre, sur laquelle on a des puces, vous voyez des circuits, des petits rectangles. Ces petits rectangles sont des puces, c'est des circuits, c'est des mémoires, c'est des circuits de mémoire. Quand vous achetez un circuit intégré, vous achetez cette puce-là, et dessus, on a dessiné un certain nombre de composants. Il faut se rendre compte de la dimension de cette chose-là. Il y a une centaine de puces. Quand je parle de puces aujourd'hui qui sont vendues où il y a 300 millions de transistors, ça veut dire que sur une plaquette comme ceci, il y a 3000 milliards de transistors. Souvent, on traite 25 plaquettes à la fois, donc 75 000 milliards de transistors. Grosso modo, il y a une dizaine de soudures par transistor, donc on multiplie encore par 10. Et quand on fabrique tout ça, on les fabrique tous à la fois, ils sont tous bons. Donc ça vous donne la taille, l'ampleur de la maîtrise que l'on a pu avoir. Autre élément, c'est une photo qui vient de chez Siemens, qui est un peu ancienne. Le problème, c'est que plus on progresse, et moins on voit de choses. Alors j'ai pris une photo un peu ancienne, d'il y a une douzaine d'années. Nos amis de Siemens ont fait une mémoire 4 mégabits. Je vous ai dit qu'on est 250 fois plus dense aujourd'hui. Et les petites choses que vous voyez là en bas, ce sont les éléments de mémoire. Chaque petit élément, chaque petite pyramide là inversée, contient un bit d'information. J'expliquerai plus ce que c'est qu'un bit d'information. Vous voyez l'échelle, 10 microns, ça c'est un peu plus petit qu'un micron. Et là, on a un cheveu. Ça vous donne l'état de l'art il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est 100 fois plus petit, donc on ne verrait rien. C'est pour ça que je ne vous montre pas la photo d'aujourd'hui, on ne verrait rien. Ça vous dit aussi que l'échelle, les dimensions qu'on utilise dans la vie de tous les jours, déjà le cheveu c'est assez petit, sont pas bonnes pour la microélectronique. Et donc j'utiliserai des tas d'autres unités. Pour vous donner une idée quand même de la dimension et pour vous donner le rapport entre les choses, je vous ai dit tout à l'heure qu'un bit d'information, un élément d'information, c'était quelques milliers d'électrons, mettons 10 000 électrons. La plus grande librairie du monde, la librairie du Congrès aux États-Unis, contient environ 20 millions de volumes. Si je suis assez généreux et que je dis chaque volume, en le comprimant un peu, je peux le comprimer sous forme de 5 millions de bits élémentaires, j'obtiens qu'au fond, il me faut, quand je fais le produit de tout ça, il me faut 10 puissance 14 bits pour avoir toute la librairie du Congrès. 10 puissance 14 bits, je vais vous montrer tout de suite qu'une fibre optique moderne transmet 1 terabit par seconde, 1000 milliards de bits par seconde. Donc pour 10 puissance 14, c'est 10, 12, 10, 14. Pour transmettre toute la librairie du Congrès aujourd'hui, il me faudrait juste 100 secondes sur une fibre optique moderne. Qu'on vend aujourd'hui sur une fibre future, il faudrait plutôt une seconde. Si j'ajoute les magazines, les tableaux, etc., il faudra quelques secondes de plus. C'est pour vous dire qu'effectivement, l'élément élémentaire d'information et le nombre d'électrons qui correspond, c'est très petit. Parce que si je regarde à quel courant ça correspond, eh bien c'est 10-18 électrons, j'ai dit 10-14 bits, 10 000 électrons par bit, 10 puissance 18, ça fait un dixième de Coulomb. Et un dixième de Coulomb, qui est notre unité habituelle de charge, c'est le courant qui passe pour un courant de 1 ampère pendant un dixième de seconde. Donc le nombre d'électrons que ça représente par rapport à nos unités habituelles est extrêmement faible. En même temps, je peux regarder l'énergie, c'est sous 1 volt, donc un dixième de Coulomb sous 1 volt, ça va faire un dixième de joule. Encore une fois, ça fait 1 watt pendant un dixième de seconde. C'est extrêmement faible. Donc je parlerai d'unités qui sont appropriées aux électrons, et je parlerai plutôt d'un électron mis sous 1 volt. Encore une fois, toute la librairie du congrès, je multiplie par la librairie du congrès, puis ça me fait juste 1 joule, donc vous voyez que ça fait quand même, c'est tout petit. Et puis je parlerai de microns, et puis j'aurai une unité, qui, ça c'est ce qu'on voit là comme trait, j'aurai quelque chose qui est 1000 fois plus petit, c'est ce qu'on appelle le nanomètre, 10 angstrom. Puis le nanomètre c'est pratiquement l'atome, alors on verra des atomes, je parlerai d'atomes, au fond c'est ce qu'il y a de plus simple, et on sait de quoi on parle. Pour vous montrer aussi une des évolutions extrêmement importantes, c'est le prix. Le prix pour 1 million de bits de mémoire, ça coûtait une maison, une belle maison en 73. Aujourd'hui, ça coûte à peu près une enveloppe. Et il a bien fallu qu'en même temps qu'on augmentait par un facteur de 100 millions l'intégration des circuits intégrés, qu'on diminue le prix, sinon on ne pourrait pas se les payer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette mémoire de dernier modèle, à 100 millions de transistors, elle coûte environ 2 dollars. Et c'est ce que coûtait le transistor, un transistor, il y a 40 ans, ça coûtait 2 dollars, et en plus, c'est 2 dollars courants. Je ne tiens même pas compte de l'inflation. Donc, on a divisé le prix par 100 millions. On n'a pas uniquement divisé le prix par 100 millions pour pouvoir se payer ces choses-là, on a aussi augmenté le rendement de fabrication. Bien sûr, si un transistor est produit avec un rendement de 90%, et si on veut que 100 millions de transistors soient produits avec un rendement de 90% de fabrication, il faut bien avoir multiplié le rendement de fabrication par 100 millions. Et de la même manière, le taux de panne, la fiabilité, doit avoir aussi été multiplié par 100 millions. Si un transistor tombe en panne au bout de 10 ans, ben il faut que 100 millions de transistors ne tombent en panne aussi qu'au bout de 10 ans si on veut que le microprocesseur fonctionne. Il y a eu un progrès similaire dans les communications optiques. Je vais être assez bref là-dessus. Voici un des premiers transistors dans les années 60 au laboratoire Bell. Ici, c'est un grain de sel pour donner la taille, mais c'est devenu beaucoup plus petit. Aujourd'hui, un bon laser, c'est un laser à émission verticale. Voilà l'échelle, 2 microns. C'est assez joli. Ça émet vers le haut, ces empilements de couches, là, ça, c'est des miroirs, on fait des miroirs de laser, et ça émet vers le haut. Elisabeth Giacobino en a parlé il y a quelques jours dans cette enceinte. Les transmissions, la communication a suivi le même chemin de diminution des coûts et d'augmentation de capacité comme la microélectronique. Là, on va assez loin, on va au télégraphe dans les années 1850, et on va assez loin, c'est une grande échelle. Vous voyez qu'il y a, dans la capacité de transmission, il y a des facteurs aussi de l'ordre de 100 millions, et dans les coûts aussi, il y a une diminution. En fait, ce transparent qui a été fait il y a 8 ans par la Commission européenne, c'est un transparent de la Commission européenne, se tourne d'un facteur 30. En fait, ici, on n'est plus à 100 millions, en l'an 2000, on est déjà à 3 milliards. Ils avaient un tout petit peu de bits par seconde, ils avaient un tout petit peu sous-estimé le progrès qui pourrait être fait. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de câbles sous-marins, transatlantiques. Et tout à l'heure, quand je vous ai fait entendre la voix de Brattain, je suis certainement passé dans un de ces câbles, je ne sais pas lequel, je ne sais pas du tout le cheminement extrêmement complexe de l'information pour qu'elle soit parvenue jusqu'à cet amphithéâtre, mais tout ça, on sait le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on on s'est lancé dans cette aventure des semi-conducteurs ? L'histoire est assez intéressante. La compagnie américaine de téléphone, AT&T, avait une augmentation de trafic considérable déjà à la fin du siècle dernier. Et très content, ils avaient inventé en 1887 un poteau qui permettait de porter plus de fils. D'accord ? Parce qu'il y avait de plus en plus de clients. Ceci avait une limite, bien sûr, et il a fallu inventer, ils ont créé le laboratoire industriel, c'est un des premiers grands laboratoires industriels à la fin du siècle, pour aller plus loin que la multiplication des fils. Et la première solution pour ne pas multiplier les fils, d'abonné à abonné, c'est la commutation. Il n'y a qu'un fil qui va d'un central à un central, et puis après, on distribue les fils. Et ça se fait par ce qu'on appelle des commutateurs. Et les commutateurs, c'est des systèmes mécaniques à relais. On fait passer des courants et on envoie les signaux dans une ligne ou dans une autre. Bien sûr, ça tombe très souvent en panne. Et au début des années 20, on a remplacé ça par des tubes à vide. Les tubes à vide, il faut les chauffer, c'est des éléments électroniques. Et là aussi, ils tombaient beaucoup en panne. Et donc, du coup, Bell, les laboratoires Bell ont décidé, au milieu des années 30, en 35, de créer un laboratoire pour essayer de trouver une nouvelle solution qui, à partir d'un système à l'état solide, plus de tubes, plus de relais, pas de déplacement mécanique, pas de chauffage, permettrait d'avoir une fonction de commutation. Par un effort délibéré, ils ont créé un laboratoire. Et voici les trois inventeurs. Brattain, qui est celui dont on a entendu la voix tout à l'heure, Bardeen et Shockley, qui ont eu tous les trois le prix Nobel en 1956 pour l'invention du transistor. C'est curieux que ce soit une compagnie de téléphone qui ait inventé le transistor et pas une compagnie d'ordinateurs. La raison est très simple, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et je vous rappelle que même en 1950, le président d'IBM avait dit, juste après la guerre, peut-être 50, les États-Unis, il y a seulement le besoin de 5 ordinateurs pour tous les États-Unis, ce n'est pas un vrai marché. Donc effectivement, c'était plutôt la compagnie de téléphone qui avait besoin de transistors. Après cette introduction, je vais donc passer à quel travail qui a été fait par les physiciens donc, dans les années 30 et 40 et par les physiciens de Bell pour comprendre le transistor. Et pour ça, il faut se reporter vraiment au mystère que représentait les semi-conducteurs. Quand on regardait les matériaux, il y avait deux classes de matériaux qui étaient bien définies. Ceux qui conduisaient bien, les métaux. On connaissait déjà aussi ceux qui conduisaient super bien, les supraconducteurs. Ça a beaucoup intéressé les physiciens. Et si on regarde, en fonction de la température, leur conductivité, elle est bien sûr infinie. Les métaux, ça conduit bien. Et puis, il y a d'autres matériaux, les isolants, ceux-là, ils isolent très bien leur conductivité. Et à 28 ordres de grandeur des métaux, la conductivité électrique est une des grandeurs qui varie le plus naturellement dans les éléments dans la nature. Et puis entre les deux, et là encore une fois, c'est une échelle logarithmique, il y a des matériaux qui conduisent un peu, pas très bien, et puis alors vraiment qui ont des comportements extrêmement bizarres. Si on prend un métal et qu'on augmente un peu la température, la conductivité diminue et ça, on sait que c'est à cause de l'agitation du cristal qui empêche les électrons de passer. Hein? Si on met des impuretés dedans, la conductivité change un peu, elle diminue un peu parce que les électrons font des chocs sur les impuretés dans le métal. Bon, on comprend tout ça. Alors, les semi-conducteurs, ça n'a rien à voir. On augmente la température, leur conductivité augmente, l'agitation thermique apparemment joue pas de rôle ou peu de rôle, il y a un autre phénomène qui se passe. Et surtout, suivant la manière dont on les prépare, ils ont des conductivités qui varient énormément. Ceci peut varier de beaucoup d'ordres de grandeur, en fait. On peut changer la conductivité suivant la préparation chimique de facteurs, 1 million, 1 milliard. C'est d'autant plus surprenant que plus on purifie les semi-conducteurs, et moins ils conduisent, contrairement aux métaux. Hein. Plus les métaux sont sales et moins ils conduisent, mais c'est dans un facteur 10, là, plus on les purifie. Alors, vous imaginez les erreurs qu'ont pu faire les gens, puisque plus ils avaient des matériaux qui conduisaient bien, ils se disaient, celui-là, il doit être propre, c'était le contraire, ça voulait dire qu'il était très sale. Il avait beaucoup d'impuretés. Un autre phénomène extraordinairement surprenant, ça a été l'effet Hall. Si on place un conducteur ou un semi-conducteur dans un champ magnétique, entre les bandes d'un électroaimant, on fait passer un courant, les électrons sont déviés par le champ magnétique, par la force de Lorentz, la loi de Laplace. Un électron qui a une vitesse V, comme ça, va se déplacer. On savait que c'était les électrons qui conduisaient depuis la fin du siècle, depuis l'invention de Thomson. On savait que les particules légères dans la matière, c'était des électrons avec une charge négative. On savait que les charges positives, les ions, les cœurs des atomes, restaient fixes. On le savait, on en était sûr. Or, de manière surprenante, suivant la manière dont on faisait l'expérience, la préparation du matériau, eh bien, des fois, on avait le champ électrique dans un sens, et des fois, on avait un champ électrique dans l'autre sens qui semblait indiquer qu'on avait des charges positives. légères qui se déplaçaient. Comment peut-on avoir des espèces d'électrons positifs dans la matière? Ça, c'était un immense mystère. Eh bien, c'est la mécanique quantique, c'est l'application de la mécanique quantique, donc de la théorie qui décrit exactement et parfaitement jusqu'à nouvel ordre la matière, comme l'a montré Aspect il y a 2 semaines. C'est la mécanique quantique qui a permis d'élucider ce problème. Et la première chose qui a été faite, c'est une théorie par Félix Bloch dans sa thèse en 1928, où il a montré que pour un électron qui se promène dans un réseau cristallin, il voit des ions qui sont répartis de manière parfaite à des endroits. Un électron qui peut se promener, l'électron il est mobile, il se promène, eh bien il va se promener indéfiniment dans le cristal de manière parfaite sans jamais sentir de collision, sans jamais faire de choc sur les ions, sur le réseau cristallin. Si le réseau cristallin est parfaitement ordonné, un électron peut se propager à l'infini. Voici une petite modélisation, par exemple, du mouvement d'un électron. En fait, là, je suis en train de mentir. Je suis en train de vous montrer la propagation d'une onde lumineuse dans un cristal qu'on appelle un cristal photonique. C'est mes recherches actuelles, c'est pour ça que je ne peux pas résister au plaisir de vous le montrer. On crée l'équivalent d'un cristal pour des ondes lumineuses en structurant la matière de manière régulière, parce qu'on espère faire subir aux photons ce qu'on sait faire subir aux électrons dans des semi-conducteurs, les contrôler, contrôler leur mouvement complètement. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur les photons, et je reviens aux électrons. Une fois qu'on connaît leur mouvement, bien sûr, on s'est posé la question de leur niveau d'énergie. Et leur niveau d'énergie, alors c'est la théorie quantique des solides, qu'on construit un cristal de sodium, qui est métallique, à partir d'atomes de sodium, eh bien, si on peut calculer les niveaux d'énergie des électrons dans l'atome de sodium. Si on met 2 atomes de sodium ensemble, les électrons peuvent passer d'un ion à l'autre, donc il va y avoir une petite modification des niveaux d'énergie, mais il y a une certaine mémoire d'où étaient les niveaux initiaux des électrons. Donc les niveaux se mettent 2 par 2, correspondant à peu près proche des niveaux de départ dans un seul atome. Si on prend 10 atomes de sodium ensemble, on va avoir 10 niveaux, ça va donner naissance à 10 niveaux, puisqu'il va y avoir 10 places, il y a 10 électrons à accommoder, il faut mettre les électrons dans des cases. Et encore une fois, il y a des niveaux qui se rapprochent. Et puis on passe à n atomes, alors n, je fais un saut prodigieux, de 10 à 10 puissance 23, nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes que j'ai dans une molécule gramme, dans 23 grammes de sodium. Eh bien, les niveaux se répartissent alors de manière continue, il y en a des milliards de milliards là, mais encore une fois, ces niveaux ont une certaine mémoire, et donc je forme des bandes d'énergie, qui sont les endroits où les électrons peuvent se mettre, et puis entre ces bandes d'énergie, il y a des endroits où il n'y a pas des énergies pour lesquelles il n'y a pas d'état possible, et c'est ce qu'on appelle les bandes interdites. Grand succès, parce que là, on expliquait d'un coup, bien sûr, les isolants et les métaux. Lorsque, dans ces états, dans cette bande d'énergie, on met les électrons, on remplit les états, il y a 10 puissance 23 électrons, il y a 10 puissance 23 atomes, il y a 10 puissance 23 électrons, autant d'électrons d'atomes, par exemple, eh bien, on va remplir les niveaux d'énergie. Les électrons, ils se mettent dans l'état le plus bas, et puis ils remplissent. Ils ne peuvent pas se mettre... Il ne peut pas y avoir plus de 2 électrons dans le même état, ça c'est le principe de Pauli, c'est le principe d'exclusion, c'est encore une fois un des grands principes de la mécanique quantique. Donc on remplit les états, deux électrons par état, jusqu'à un certain niveau, et là, tous les électrons sont tous casés. Le dernier état, le dernier niveau ici s'appelle niveau de Fermi, niveau d'énergie, pas très bien défini, il s'est défini à l'énergie d'agitation thermique. Les électrons ils peuvent quand même être un petit peu agités par la température. Ils ont une agitation thermique qui s'appelle kT. Un électron a une énergie qui donnée par kT. K est la constante de Boltzmann, T est la température. C'est quelque chose qui est extrêmement faible. C'est 1/40 d'électron-volt. Et je vous ai dit, l'électron-volt, c'est l'énergie d'un électron qui prend 1 volt de potentiel. C'est quelque chose de très petit, puisque l'électron lui-même est très petit. Donc c'est très petit, mais ça veut dire que des électrons là peuvent prendre un petit peu d'énergie. Si je mets un champ électrique, ils peuvent bouger aussi, ils prennent un peu d'énergie, ils prennent de l'énergie dans le champ électrique, ils bougent, ils prennent de la vitesse, il n'y a pas de problème. Et suivant l'endroit, pour les métaux, les derniers états occupés sont dans des états qui sont autour d'états qui sont permis. Il reste des états au-dessus et je peux avoir de l'agitation thermique ou prendre de l'énergie sur la section d'un champ électrique. Par contre, pour un isolant, le dernier état permis, comme il y a adéquation exacte entre le nombre d'états dans une bande et le nombre d'électrons, hop, on va juste tomber En haut des bandes, on a rempli tous les états. Donc, il n'y a pas d'électrons qui puissent avoir de l'énergie d'excitation thermique et qui puissent se mettre à conduire. Si je prends un champ électrique, il n'y a nulle part où aller pour l'électron pour prendre de l'énergie. Et donc, on ne peut pas bouger. Il y a une très belle image de ceci qui a été donnée par Shockley, où il dit, bah, au fond, tout se passe, on peut considérer ce placement des électrons comme le placement de voiture dans un parking. Et supposons qu'on ait un parking à deux étages, un rez-de-chaussée, un premier étage. Supposons que le rez-de-chaussée soit plein de voitures. Eh bien, bien sûr, si le rez-de-chaussée est plein de voitures, les voitures ne circulent pas. Ça, c'est une bande pleine, c'est un isolant, les voitures ne peuvent pas circuler. Par contre, si les bandes ne sont pas complètement pleines, il reste des états à côté, des niveaux d'énergie à côté. Donc, par exemple, si le rez-de-chaussée n'est pas plein ou si le premier étage, j'ai quelques voitures, mais tout n'est pas plein, bah, bien sûr, les voitures peuvent bouger. Et, par exemple, si j'ai mis quelques voitures au premier étage dans une bande non pleine, eh bien, je vois que je peux avoir une vitesse des voitures et un courant de déplacement des voitures dans mon sens. Je peux aussi avoir du courant. S'il manque quelques voitures dans le rez-de-chaussée, par un jeu de taquin, il est évident qu'une voiture peut se déplacer de proche en proche. Là, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que correspondant au sens de déplacement des voitures, le courant est en sens inverse. Le trou de voiture se déplace en sens inverse. Et c'est ça l'origine des trous dans une mer d'électrons, dans un ensemble d'électrons, dans une bande d'électrons presque pleine. Lorsqu'on a un ensemble d'électrons presque plein, un étage de garage presque plein, eh bien, le mouvement qu'on regarde, qu'on observe du trou de voiture, du trou d'électrons, se déplace dans l'autre sens. D'où l'apparition d'une vitesse en sens inverse qui apparaît comme une charge positive pour des électrons. Le grand mystère de l'effet Hall, et c'est un mystère absolu, a été résolu par Peierls en 1930. C'était sa thèse à Leipzig. Une fois qu'on a ça, on a presque tout dit. Les semi-conducteurs, où ils sont? Les semi-conducteurs, ils sont entre les deux. Ils ont... La bande interdite n'est pas très grande. Et du coup, l'agitation, par agitation thermique, quelques électrons peuvent passer en haut. Alors, quand je dis quelques électrons, c'est très peu. Pour du silicium, ça va être 1 sur 100 milliards. 1 sur 100 milliards. Il y a 100 milliards d'électrons qui sont disponibles là. Il y en a 1 sur 100 milliards qui va passer. C'est extrêmement faible. Mais ça va faire une conductivité. Et bien sûr, cette conductivité augmente avec la température. Plus j'agite les électrons, et plus il y a une chance qu'ils soient excités. C'est ce qui explique que la conductivité proportionnelle au nombre d'électrons et de trous que j'ai dans les bandes qui peuvent se déplacer, eh bien, ça augmente avec la température. Le mystère de la conductivité des semi-conducteurs qui augmente avec la température est résolu. Alors, il y a une autre propriété extrêmement importante des semi-conducteurs, c'est qu'on peut, ça c'est des propriétés intrinsèques dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, on peut modifier aussi leur conductivité en mettant des impuretés choisies. Et si je mets des impuretés choisies, c'est-à-dire c'est des atomes dont les niveaux sont près soit de la bande de conduction, de la bande vide, donc qui ont un électron en plus, c'est par exemple du phosphore, des atomes de phosphore dans du silicium, ils vont lâcher un électron, l'émettre dans la bande de conduction, et il va y avoir conductivité, et conductivité exactement proportionnelle au nombre d'atomes que j'aurais mis. Donc j'ai dit, il y avait 1 pour 100 milliards d'électrons qui pouvaient être excités des atomes du silicium. Si je mets un atome de phosphore par milliard d'atomes de silicium, très très peu, hein, 10-9, 1 ppb, c'est très très petit, eh bien, cette partie-là, ça va faire 100 fois plus d'électrons que les électrons de départ du silicium. Et bien sûr, c'est cela que je vais voir. Si j'en mets 1000 fois plus, ce qui ferait encore pas beaucoup, ça ferait un atome par million, un atome étranger par million, c'est quand même une très très bonne pureté chimique, et bien là, j'aurais augmenté la conductivité du silicium d'un facteur 100 000. Et vous comprenez pourquoi ces impuretés contrôlent complètement la conductivité du silicium. À l'inverse, on peut mettre des atomes accepteurs. Dans le garage, c'est des niveaux qui sont près du rez-de-chaussée et qui vont accepter, il manque un électron, ils vont happer un électron du rez-de-chaussée, de la dernière bande occupée d'atomes. Par exemple, ce sera du bord dans du silicium. Et là, j'aurai créé des trous qui vont conduire. C'est ça qui permet de contrôler à volonté la conductivité des semi-conducteurs. Alors, à partir de ça, le fait qu'il y ait une très faible conductivité et qu'on puisse la contrôler avec des électrons des trous, c'est ça qui permet le transistor, et c'est ça l'invention des laboratoires Bell. Par exemple, je schématise beaucoup là, le principe d'un transistor à effet de champ, on se dit, on prend un morceau de matériau et on va essayer de changer sa conductivité, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'il y a à l'intérieur, en appliquant une perturbation électrique à ce matériau. Alors pour ça, par exemple, on peut mettre une grille de commande au-dessus du matériau. Alors si on mettait le vide, ça ne serait pas très pratique. Donc on va plutôt mettre un isolant, on dépose un isolant sur le matériau, puis un métal, et on applique une tension sur ce métal. Alors si j'applique une tension sur ce métal, il va apparaître des électrons sur le métal. Par interaction électrostatique, les électrons qui sont ici vont repousser les électrons qui sont dans le matériau, si j'ai pris au départ un matériau où il y avait des électrons. Et si j'applique une tension suffisamment forte, par exemple 5 volts, eh bien j'ai complètement vidé la partie qui pouvait conduire entre deux électrodes, alors ces deux électrodes on les appelle les sources et le drain, j'ai complètement vidé d'électrons conducteurs, donc j'ai plus de conduction entre deux électrodes. J'ai réalisé un interrupteur. Alors vous me direz, mais où est le semi-conducteur là? Donc pourquoi on ne ferait pas ça avec un métal où il y a beaucoup d'électrons? Eh bien le problème c'est que si on fait un petit calcul de combien il faut, on met à peu près autant d'électrons sur l'électrode que ce qu'on enlève en dessous, si on essaie de faire la même expérience avec une densité de métal, il y a beaucoup trop d'électrons à faire partir d'un métal, et du coup il faudrait appliquer sur cette électrode des milliards et des milliards de volts. Bien sûr c'est impossible. Et ce n'est possible que parce qu'il y a peu d'électrons à vider dans les semi-conducteurs, qu'on sait combien il faut en mettre pour telle tension, etc., qu'on contrôle tout ça, qu'on arrive à faire fonctionner le transistor. Et c'est ça qui est unique parmi tous les matériaux. Donc du coup, le transistor, ça fonctionne vraiment comme un interrupteur. On le représente schématiquement par un certain diagramme. Et on peut dire c'est comme un bouton poussoir. S'il n'y a pas de tension sur le transistor, il va conduire. Si je mets une tension sur le transistor, il ne conduit pas, et on passe d'un courant qui est important à un courant qui est nul par une tension de commande. Si on regarde le cheminement des électrons d'un côté à l'autre, entre les deux électrodes, entre les deux on dit qu'on a un canal conducteur, et bien ce canal conducteur, il a des électrons ou il n'en a pas, suivant la tension de commande appliquée, et en appliquant une tension entre l'électrode de départ, la source, et l'électrode d'arrivée, le drain, on ne fait pas passer d'électrons. Et vous voyez qu'il y a un effet amplificateur, il peut y avoir une petite tension de commande pour faire passer ou ne pas faire passer les électrons, et on peut avoir un très grand changement de potentiel des électrons lorsqu'ils passent d'une électrode à l'autre, suivant la tension qu'on a appliquée. Et ça, c'est un effet amplificateur extrêmement important. Une analogie hydraulique, c'est qu'on a une petite vanne qui contrôle un grand courant. La réalisation physique de ceci, c'est le transistor à effet de champ. Le principe que je vous ai décrit là, c'est le transistor à effet de champ métal-oxyde semi-conducteur, où on a un métal, un isolant et un semi-conducteur en dessous, NP. On peut changer les signes suivant la conduction NP. Je vais être très bref sur les ordinateurs. Un ordinateur, pour réaliser une fonction, par exemple, j'ai représenté une fonction de multiplication suivie d'une division, doit avoir d'une part des mémoires, il faut connaître les chiffres qu'on veut multiplier et diviser, il faut une mémoire d'instruction, une instruction qui va dire il faut prendre les deux chiffres A et B, il faut les multiplier, on veut les multiplier, il faudra prendre le chiffre C, il faudra le diviser, et puis il y a bien sûr une unité arithmétique qui va faire les opérations multiplication et division. Comme je vois que le temps passe, je ne vais pas vous décrire ça. On peut montrer très simplement qu'on peut réaliser toutes les fonctions de mémoire et de logique par des interrupteurs. Ce n'est pas besoin des semi-conducteurs. On a parlé de fluidique à une époque, on parle d'électronique moléculaire, on parle de beaucoup de choses, de photons, d'ordinateurs optiques. Mais fondamentalement, c'est ces fonctions combinatoires et de mémoire qu'il faut réaliser. Croyez-moi, on peut le faire assez facilement avec les transistors. Alors, j'en passe maintenant à la fabrication. Comment fait-on ces choses-là réellement? Alors, tout d'abord, une galerie un peu historique, quelques visions historiques. Ceci est le premier transistor, donc du 23 décembre 1947. Il est très rustique. Je vous signale que l'élément brillant qu'on voit au-dessus, c'est un trombone pour presser les électrodes sur un morceau de germanium, Brattain avait utilisé un trombone qui traînait sur son bureau et ça marchait très bien. Donc 23 décembre 1947. Deux ans après, quelque chose qui a l'air aussi un pâté horrible, c'est le premier transistor à jonction, c'est le premier transistor moderne réellement inventé par Shockley. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. C'est pas tout à fait impressionnant. Le premier circuit intégré, inventé en 1958, là on a passé une dizaine d'années, Texas Instruments, Jack Kilby, il y a un transistor, quatre résistances et un condensateur. Ça fait un centimètre de long. Le premier transistor moderne, de l'époque moderne, est un transistor qui a été inventé dans une compagnie qui s'appelait Fairchild, par des gens qui avaient travaillé avec Shockley, puis qui ont créé la compagnie Fairchild, puis après ont créé la compagnie Intel, toutes ces compagnies de Silicon Valley. Oui, j'ai oublié de dire, dans le genre paradigme, un des grands paradigmes de la microélectronique, des semi-conducteurs, c'est que ça donne naissance à Silicon Valley. À l'origine de Silicon Valley, il y a les semi-conducteurs et la microélectronique. Et d'ailleurs, on a appelé Shockley le Moïse de la Silicon Valley, parce que lui, il a fait faillite, il n'a pas, réussi, et tous les autres ont réussi. C'est le premier transistor moderne fait par une technologie planar que je vous décrirai rapidement. Voici un circuit intégré assez récent, circuit intégré qui correspond à quelques centaines de milliers de transistors, donc ça c'est ancien, c'est une dizaine d'années. C'est un ordinateur complet, il y a des entrées-sorties, des convertisseurs, des circuits de communication et de la mémoire. Alors comment fait-on les circuits intégrés? Je vais aller assez rapidement là-dessus, ce n'est pas l'objet tout à fait de l'exposé. On doit bien sûr dessiner ces motifs, ces circuits intégrés extrêmement complexes, donc traduire en motifs la fonctionnalité électronique, transférer ces motifs sur des matériaux, des semi-conducteurs, des électrodes de contact. Il faut un substrat, il faut des isolants diélectriques, des métaux, des dopants NEP pour réaliser à la fois des résistances, des condensateurs et des transistors. Alors le substrat, d'abord, je vais en dire juste deux mots. Je vais essayer de ne pas le casser, ça m'a été prêté par mes amis de ST Microelectronics. Voici un substrat moderne de 300 mm de diamètre. C'est là-dessus qu'on construit aujourd'hui les circuits intégrés. Alors, cette tranche qui fait 400 microns à 1,5 mm d'épaisseur a été découpée dans un cristal qui fait 2 mètres de haut. Ce cristal est parfait. Ce sont les cristaux de silicium, ce sont les cristaux les plus parfaits, à la fois artificiels et naturels. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas une dislocation dans ce cristal. Il y en a exactement zéro. Alors après, quand on a commencé à couper, à polir, etc., il peut y avoir des défauts. Et c'est ce qui fait que le silicium comme ceci, qu'on appelle monocristallin, il y a un seul cristal parfait, on l'utilise en mécanique parce que comme il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de germe pour, par exemple, que ça casse. Donc c'est un système parfait. J'y reviendrai un tout petit peu pour le décrire. Après, on fait des dessins. Alors, les dessins, c'est des dessins géométriques. Un transistor, c'est un petit peu plus compliqué que les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure. Il faut percer des contacts, il faut pénétrer dans des couches, il y a des isolants un peu partout. Ça devient un tout petit peu compliqué. Alors, ça devient beaucoup. Ça, c'est pour un transistor. Lorsqu'on regarde beaucoup de transistors, c'est beaucoup plus compliqué. Et voici un dessin. Ça, c'est un dessin, c'est pas un circuit. Un dessin. Alors voyez, on peut aller très loin. Il y a beaucoup de traits. Et encore, ceci est vieux de 10 ans. On ne pourrait pas faire la photo d'un circuit récent. Encore une fois, ça serait trop petit. Et voici un circuit intégré d'il y a une dizaine d'années aussi, qui est le 486 d'Intel. Ce circuit est intéressant. Ça veut dire qu'en 90, ce circuit fait 100 millions d'opérations par seconde. Vous aviez sur votre table l'équivalent d'un superordinateur du milieu des années 60, interdit à l'exportation par les États-Unis. Il y avait eu une assez importante histoire entre la France et les États-Unis à l'époque. Ça, vous l'aviez sur votre table pour, à l'époque, 2 000 $. Maintenant, bien sûr, ça coûte beaucoup moins. Comment reporte-t-on les motifs? C'est la partie la plus importante, ça s'appelle la lithographie. La lithographie, ça consiste à... Par exemple, si on veut faire un trait de métal... Eh bien, on va déposer sur le silicium du métal et une résine photosensible. Et on irradie cette résine photosensible par de la lumière à travers un masque. Et le masque a été rendu opaque avec le dessin qu'on veut reporter sur le métal. La lumière qui passe donc n'irradie pas la partie qu'on veut garder à la fin. Et du coup, la partie qui a été irradiée de la résine a été rendue sensible, elle est devenue fragile à l'attaque chimique. Et donc, par une attaque chimique sélective, on peut enlever toute la partie qui a reçu de la lumière. Ensuite, par une autre attaque chimique sélective, on peut enlever le métal qui n'est pas protégé par la résine au-dessus. Et enfin, par une troisième attaque sélective, maintenant, on attaque la résine qui reste, il ne reste plus que le métal. Voici le principe de la lithographie, et c'est un principe qui s'apparente assez bien à celui de l'imprimerie. Alors, il y a beaucoup d'autres opérations, je ne vais pas entrer dans le détail. Le dopage, par exemple, pour mettre des impuretés, dont je vous ai dit que c'est elle qui contrôle la conductivité du semi-conducteur en dessous, du silicium. Ce silicium est très pur. Eh bien, on envoie des atomes dans des zones qui ne sont pas protégées par un masque, par exemple de la silice. On envoie des atomes, on chauffe, on a des atomes thermiques, on envoie des atomes accélérés par un champ électrique et on a le dopage. C'est un petit peu fastidieux, puisque pour faire ceci, pour faire un circuit intégré moderne, il y a jusqu'à 800 opérations. Il y a des séries de masques, il y a donc la plaquette, on fait un dépôt de film isolant ou métal, on fait l'lithographie, on grave, et puis on revient, on fait un dopage, etc. Il y a jusqu'à 800 opérations. Et encore une fois, ces 800 opérations, on traite à la fois des milliards de composants pour arriver au bon résultat. Pour vous montrer ce à quoi on arrive en production, encore une fois, ben voici de manière détaillée les atomes à l'interface du semi-conducteur et de l'isolant qui est au-dessus pour faire la grille. Et vous voyez que les atomes sont parfaitement ordonnés. On peut les voir, ça c'est une photo un petit peu ancienne, aujourd'hui on les voit mieux, on les voit atome par atome, dans une photo en microscopie par effet tunnel. Et pour vous dire aujourd'hui l'état où serait cette plaquette si elle n'avait pas été transportée dans des conditions tout à fait scandaleuses, il y aurait moins d'un atome étranger par milliard d'atomes sur cette surface. Le contrôle de la propreté de cette surface est absolument essentiel et on y arrive. Alors, par exemple, très brièvement, voici une photo d'interconnexion. Ça, c'est tous les fils qui s'enchevêtrent pour aller faire des contacts dans les différents transistors pour faire les fonctions d'ordinateur qu'on veut réaliser à la fin. C'est un cliché IBM un petit peu ancien. Et bien sûr, là-dedans, il faut que entre les fils, il n'y ait pas de contact. Donc, quand j'ai tracé des fils, il ne faut pas qu'il y ait eu des poussières qui, sur le masque, aient indiqué il doit y avoir un fil là. Donc, toute poussière donne une information fausse. Parfois, cette information n'est pas trop grave, parfois elle est grave, et c'est pour ça qu'on doit faire les composants dans des salles blanches, bien connues. Ce n'est pas intrinsèque au semi-conducteur, c'est parce qu'on veut faire, encore une fois, des centaines de milliards de composants à la fois et qu'ils n'ont aucun défaut. Brattain n'avait pas besoin de salles blanches, et pendant 20 ans, il n'y a pas eu de salles blanches en microélectronique. C'est quand on a commencé à faire des composants par les milliers et centaines de milliers qu'on a eu besoin de salles blanches. Voici une salle blanche récente de G.S. Thompson, où on voit les opérateurs avec, bien sûr, leur scaphandre bien connu. Comment tout ceci a-t-il été possible? J'en viens aux les évolutions, et je ne reste pas à l'idée de vous montrer cette évolution. Dès 1965, Moore, le président de Fairchild à l'époque, avait dit « il y a une croissance exponentielle et on peut extrapoler. Ça veut dire que dans 10 ans, en 1975, il y aura 15 000 transistors par centimètre carré sur les puces. » Dans le même article, en 1965, on parle d'il y a 35 ans, mais c'était une blague. On voyait dans un grand magasin un petit dessin humoristique, on voyait à côté de la parfumerie la vente d'ordinateurs domestiques pour la maison. C'était une blague à l'époque, en 1965. Je vous rappelle qu'à la fin des années 70, le président de Digital, la plus grande société de mini-ordinateurs, disait « il n'y a pas besoin d'ordinateurs à la maison hein, », à la fin des années 70. Donc là, quand même, c'était extrêmement prémonitoire. Il faut savoir qu'en 62, trois ans avant, dans un article futuriste, 2012, il y avait un physicien américain qui avait essayé d'extrapoler. Alors, il avait pensé aux salles blanches, les personnes blanches, il disait « Oh, en 2012, on aura sans doute 10 000 transistors par centimètre carré. » Il s'était juste trompé d'un facteur de 100 millions. Mais il avait prévu quand même qu'on allait. Alors, pourquoi tout ça est rendu possible? D'abord parce que les lois physiques le permettent. Quand on diminue les dimensions, les lois de physique vous disent « on peut le faire ». Après, la technologie vous dit « on sait le faire », et puis après, il n'y a plus qu'à faire. Ce n'est pas très facile, mais on essaie de le faire. Alors, il y a eu beaucoup de crises, et il y a un consensus sur comment vont se dérouler les choses. Mais bien sûr, le physicien, lui, se pose la question, mais où vont être les limites physiques à la miniaturisation? Alors, très brièvement, la loi d'échelle, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand je diminue d'un facteur alpha, mettons un facteur 3, toutes les dimensions d'un matériau. Et là, la physique est très gentille, elle dit, plus c'est petit et meilleur c'est. Je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais plus c'est petit et c'est meilleur c'est, plus c'est petit, bien sûr, la vitesse augmente, les électrons ont moins de distance à parcourir, donc la puissance dissipée diminue d'un facteur alpha 2. J'ai diminué la taille d'un facteur 3, j'ai augmenté la densité d'un facteur 9. Bien sûr, la densité augmente. Le plus important, c'est que la puissance dissipée reste constante. Heureusement, je suis passé de 1000 transistors à 1 milliard transistors, la puissance dissipée n'a pas augmenté. C'est toujours des puces qui consomment 10 watts. Et heureusement, sinon, si j'avais augmenté d'un facteur 1 million, à 10 watts, ça aurait fondu depuis longtemps. Et donc, du coup, la puissance dissipée globale n'augmente pas. Du coup, la puissance de calcul, j'ai augmenté d'un facteur 9 le nombre de composants et de 3 la vitesse, j'ai augmenté d'un facteur 27 la capacité de calcul. Ça, c'est extraordinaire. Après, tout se passe bien, sauf pour une petite chose, la ligne d'interconnexion, la puce, elle fait toujours 1 cm. Par contre, la vitesse a diminué d'un facteur 9. Si je ne fais rien, bien sûr, je fais des choses, j'augmente la taille, j'augmente la section des conducteurs, j'augmente la conductivité des conducteurs, sinon j'aurai un grave problème avec les délais de propagation. Là, encore une fois, il y a eu des tas de gens qui ont fait des tas de prédictions faux. Les prédictions, ça, il y en a eu beaucoup en microélectronique. Par exemple, en 1962, un grand physicien, Wallmark, a utilisé toute la physique qu'on connaissait à l'époque. Les rayons cosmiques, la chaleur, la définition géométrique, il a dit... on ne pourra pas descendre en dessous de 10 microns. Et ça, c'était une vision, en 1962, d'un bon physicien. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est à 10 fois plus petit et on ira beaucoup plus loin. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé ça? Alors, il y a des tas de choses qui sont cachées, je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail, mais par exemple, l'optique pour faire la lithographie, pour transmettre les motifs qui sont de plus en plus petits, bien doit résoudre de mieux en mieux. L'optique la meilleure qu'on trouve dans le monde et de très loin, c'est l'optique qui sert à la microélectronique. Et vous voyez que la complexité des optiques qui permettent la lithographie a énormément augmenté. C'est un des domaines phares de l'optique. Une autre dimension, je vous ai dit qu'il fallait des conducteurs qui conduisent mieux. Ben, on a introduit du cuivre. Nous, on sait d'habitude que c'est un tueur de silicium, des bonnes propriétés électriques du silicium. Et bien, voici des interconnexions en cuivre, beaucoup de niveaux, faits par IBM, nos collègues d'IBM. Alors, quand on diminue les dimensions, il se passe des choses pas très jolies. C'est compliqué, parce que si on garde côte à côte un transistor à 0,35 microns d'il y a 5 ans et un transistor qui sera fait dans 2 ans à 0,1 microns, bah, vous voyez que le transistor, le semi-conducteur, c'est tout petit. Et tout ce qui compte est la fonctionnalité en microélectronique. Bien sûr, ça va être la connectivité, les interconnexions entre les transistors. Et donc, on voit que de plus en plus de place est prise par les métaux et par les isolants, ça devient extrêmement compliqué à faire. C'est des gratte-ciel qu'il faut faire, encore une fois, avec des précisions atomiques. Et tout ça est extrêmement difficile. Alors, où va-t-on? J'ai dit qu'il y avait beaucoup de crises. Pour échapper un peu à cette vision catastrophiste, les industriels se sont mis ensemble et se sont dit, essayons de définir ensemble une vision de l'avenir. La microélectronique, par beaucoup d'aspects, est une industrie tout à fait exemplaire. En particulier, les gens discutent ensemble. Et donc, ils se sont dit, ben voilà, les traits, ça va passer. Donc, j'ai dit, on était à 0,18 maintenant, ça va être 500 angstroms, 50 nanomètres, ça fait 100 atomes de large en 2012. Et on voit, ils nous promettent en 2012 256 milliards de bits de mémoire par chip, etc. Des vitesses qui vont à 10 gigahertz, c'est des choses absolument prodigieuses. Ils vont jusqu'à 2014, et ils s'arrêtent en 2014, ils disent on ne sait pas comment on va faire après. Alors bien sûr, il y a des tas de gens qui disent ah ben, ça veut dire qu'en 2014, il n'y a plus de silicium, il faut trouver autre chose. Ma vision de l'avenir, c'est après 2014, ce sera toujours du silicium, qui sera un petit peu différent, mais comment ? On ne sait pas. Alors, il y a des gens qui, eux, n'hésitent pas, ils disent « le passé nous montre qu'on a toujours continué à croître en performance, eh bien, il en sera de même dans l'avenir. » Et ils disent gaillardement, eh bien, alors là, vous voyez, il balaye l'âge sur un siècle, de 1950 à 2050, et on diminue jusqu'à un nanomètre, on passe de 1 milliard à 1000 milliards à 1 million de milliards en 2040, et on arrive, on donne des noms aux choses. Avant, ça s'appelait le conventionnel, après, ça s'appelait l'anneau-électronique. Ça, c'est des mots. Si on regarde de plus près, il y a des gens qui regardent quand même, heureusement qu'ils regardent un peu plus près, ils disent, oh là, il y a des problèmes quand même. Quand on arrive vers 2010-2015, il n'y a plus que 100 électrons dans un transistor. J'ai dit, jusqu'à maintenant, il y en avait 10 000, maintenant, il n'y en a plus que 100. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 100 électrons? Il y a des fluctuations. À un moment, vers 2030, on arrive à un électron, puis après, on arrive à moins d'un électron. Manifestement, il va y avoir un problème. Alors, au-delà de ça, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens ont un peu regardé. Donc, les évolutions proches, 5-10 ans, c'est du silicium et des variations. Un peu plus lointain, les gens disent peut-être des supras, de l'ordinateur optique, neuronal. Des tas de choses qui ont déjà été vues, regardées depuis 30 ans et qui n'ont jamais marché. Enfin, il y a toujours des gens pour essayer de la lancer. Et puis après, on dit, il y a des composants à un ou quelques électrons, électroniques de spin, et plus tard, des évolutions très lointaines. Alors, vraiment très futuriste, c'est plus les semi-conducteurs, de l'électronique moléculaire, des ordinateurs à ADN, l'ordinateur quantique. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'autorise de telles variations? C'est parce qu'au fond, si on sort un petit peu des semi-conducteurs pour quelques secondes et qu'on se pose la question, l'information, qu'est-ce qu'il faut pour traiter de l'information? Combien d'énergie? Combien d'électrons, d'atomes? Eh bien là, on s'aperçoit qu'on est très très loin des limites. La théorie de l'information dit qu'il faut, pour traiter de l'information, soit zéro énergie, soit kT, suivant comment on fait le calcul. kT, j'ai dit, c'était un 40e d'électron-volt, c'est moins d'un électron, il n'y a pas de problème. Il faut moins d'un électron pour faire de la théorie de l'information. Et les composants actuels en sont très loin. Un composant actuel, moderne, donc avec 10 000 électrons, a une énergie, si je la comptais en kT, qui ferait 100 000 kT. Il est à 100 000 fois cette limite théorique. Mais en fait, un circuit intégré n'utilise pas du tout de manière correcte et efficace ce bon composant. Si je calcule un bon circuit intégré, combien il consomme d'énergie par opération, ce n'est pas 100 000 kT, 100 000 fois l'énergie thermique, c'est 10 puissance 13, 10 000 milliards. C'est parce que, alors, ceci dit, cette opération est beaucoup plus compliquée. Une opération 64 bits, ça fait il y a un facteur 1000 peut-être. J'exagère d'un facteur 1000 peut-être. Mais enfin, il y a 10 milliards peut-être, 1 milliard ou 10 milliards, cette limite théorique. C'est très inefficace et ça, c'est la connectivité qui manque dans les circuits intégratuels. Et ce qui le montre bien, c'est que le vivant, effectivement, fait beaucoup mieux. La réplication du vivant, la réplication de l'ADN, consomme 20 fois l'énergie thermique seulement, et pas très loin de la limite théorique, et en plus, dedans, il y a l'irréversibilité qui est incluse. On copie dans un sens, on ne copie pas dans l'autre. On ne copie que l'ADN de départ vers un nouvel ADN. Et donc c'est irréversible et il y a de la correction d'erreur. Le cerveau de l'abeille, un de mes favoris, qui comporte seulement 1 million de neurones, grâce à sa connectivité, arrive à faire 1 téraopération par seconde pour 10 microwatts, ce qui correspond à 250 kT. Donc, encore une fois, la connectivité joue un rôle extrêmement important. Il existe beaucoup de choses. Feynman, par exemple, dans un discours, encore lui, il a introduit beaucoup de concepts dans le siècle. En 59, le 29 décembre 59, encore une fois décembre, a fait un discours extrêmement célèbre sur les limites de la physique et de l'information. Et il a dit qu'il y a beaucoup de place possible, 59. Parce qu'en fait, on peut coder l'information. Rien n'interdit de coder l'information sur un atome. Et en fait, l'expérience a été faite récemment. Voici une expérience extrêmement connue de Don Eigler à IBM, où on voit des atomes, on les a placés à certains endroits, de manière manifestement donnée. Manifestement, il y a de l'information ici. On a aussi réalisé déjà des transistors à un seul électron, comme c'était prévu. Il y a des transistors à un électron. Le système, ça c'est la grille, le canal du transistor est là. C'est suffisamment petit pour qu'un seul électron influence le passage d'autres électrons. Il y a d'autres possibilités qui sont par exemple l'ordinateur moléculaire. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. J'y crois très peu personnellement, mais il y a des gens qui ont commencé à faire passer des courants et à regarder ce qui se passe dans des molécules. Évidemment, c'est plus simple que de fabriquer au marteau et au burin, hein, c'est ça la microélectronique aujourd'hui, les composants, ça serait plus simple de les faire par assemblage chimique, et c'est ça l'idée de l'électronique moléculaire. Plutôt que de parler des limites, et je voudrais pas, il y a bien sûr l'ordinateur quantique, dont on a déjà un peu parlé dans cette université, je voudrais juste m'interroger sur une vraie limite, et la limite, je voudrais plutôt l'interroger du côté de qu'est-ce qu'on pourra faire. Et sur ce diagramme, on a reporté en fonction du temps le nombre d'instructions, la puissance de calcul pour 1000 dollars. D'accord ? Alors ça commence tôt, ça commence en 1900 et on extrapole assez loin. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un paramètre qui est important. Il y a ici un être humain, je ne sais pas pourquoi il a une espèce de peau de léopard, je ne sais pas pourquoi on considère que nos ancêtres étaient moins intelligents, c'est la même intelligence. Et on s'aperçoit qu'on aura la puissance de calcul du cerveau pour 1000 dollars, donc on pourra tous se l'acheter vers 2030 avec du silicium, 2020-2030 avec du silicium. C'est du silicium, s'il ne s'agit pas d'autre chose. Alors là, c'est extrêmement important et ça me ramène au slogan de votre université, cher Yves Michaud, l'université de tous les savoirs, 366 jours pour se doper au savoir. Là, à cette époque-là, on pourra se doper, on aura chacun avec nous, un assistant esclave, une intelligence à côté de nous qui nous permettra, bien sûr, d'amplifier énormément nos capacités, les capacités de chacun. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Ahuri. Bon. Monsieur, bonjour. Je voudrais savoir si le cosmos, c'est-à-dire le vide de l'espace, est un très bon conducteur. Merci.
Non, c'est un très mauvais conducteur, c'est un parfait isolant. Attendez, je vais prendre mon micro, c'est des micros.
Attendez, mais où sont les micros ? Comment ça se fait ? Là-bas ? Mais enfin, il faut pas les passer, il faut les passer comme dans l'ordre que je dis. Allez-y, posez votre question, même si c'est dans n'importe quel ordre.
Bonjour monsieur.
C'est quand même pas vrai.
Bonjour monsieur, vous avez parlé d'impuretés pour augmenter la conductivité. De quelles impuretés s'agit-il, s'il vous plaît ?
Alors, j'ai dit très rapidement, pour mettre des électrons, on prend du phosphore dans du silicium, du phosphore ou de l'arsenic, des éléments de la colonne 5. Pour mettre des trous, pour faire des accepteurs, on met du bore, par exemple, dans le silicium, des éléments de la colonne 3.
Monsieur.
Oui, professeur, dites-moi, j'ai pas compris pourquoi vous, une mine scientifique française, vous avez publié 4 ou 5 livres en anglais. Est-ce que c'est parce que vous êtes américanophile ou parce que vous... quelle est la raison ? Est-ce que, à ce soir, la question, est-ce que ces livres sont traduits en français ? Plus sérieusement, le transistor, d'où vient le mot ? Pourquoi l'un des inventeurs, Bartel par exemple, ou l'un de ses deux collègues nobilisés, n'ont pas donné leur nom à l'invention ? Merci.
Alors, pour la réponse à la première question, c'est une question de diffusion. C'est des livres assez spécialisés et la grande majorité de la collectivité parle anglais. Donc, si on veut tirer à plus de 200 ou 300, il faut publier en anglais. La réponse à la deuxième question, pourquoi ça s'appelle transistor, au fond, ils ont beaucoup discuté entre eux. Alors, d'abord, ils sont beaucoup battus entre eux. Il y a un roman feuilleton à écrire sur la relation entre Brattain, Shockley et Bardeen et les autres. C'est un roman terrible. C'est certainement pire que Dallas. Le nom de transistor, et ils se sont beaucoup posé la question, donc aucun d'entre eux ne pouvait donner le nom puisqu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc du coup, c'était une invention de Pierce qui a dit, on va appeler ça transfert résistor parce qu'il y a un transfert de la tension sur un canal. Transfert résistor, ça donnait transistor.
Monsieur.
J'aurais trois questions. La première, il semblerait que les limites dans les progrès dans ce domaine sont dû à la théorie de la physique quantique elle-même. C'est ma première question. La deuxième, vous avez parlé de l'emploi du silicium et vous avez dit pourquoi c'est l'absence de défaut des cristaux, mais pourquoi le silicium a-t-il cette absence de défaut ? Et ma dernière question concerne ce que vous avez dit au sujet du vivant. Le vivant fait beaucoup mieux. Mais est-ce que le vivant fait beaucoup mieux en utilisant des principes très très différents au point de vue, au point de vue efficacité, étant donné que la comparaison entre le cerveau humain, par exemple, et le cerveau des ordinateurs, beaucoup de gens disent que les procédés, les principes sont tout à fait différents, les principes de calcul.
Bon, alors, comme on a peu de temps pour les questions, je vais répondre brièvement. Effectivement, quand les dimensions diminuent, on arrive à des effets quantiques. On commence à sentir la fonction d'onde de l'électron, la quantification des niveaux d'énergie. Ce n'est pas une limite, c'est une modification du fonctionnement. J'ai travaillé une quinzaine d'années sur les composants quantiques, hein, ça a été dit, j'ai même écrit un livre là-dessus, ça n'empêche pas les composants de fonctionner. Et les gens qui disent que l'apparition de phénomènes quantiques empêche le bon fonctionnement du transistor ne connaissent pas la physique des composants électroniques. Donc ce n'est pas un problème. Au contraire, ça peut être même utilisé de manière positive pour avoir des meilleurs composants, et on l'a montré, par exemple, le laser à puits quantiques, donc où il y a des effets quantiques, c'est celui qui est dans tous vos lecteurs de compact disque, par exemple. C'est un laser qui marche mieux parce qu'il y a des effets quantiques dedans. Le silicium, absence de défaut, c'est parce que, effectivement, je n'en ai pas parlé, le silicium a des propriétés physico-chimiques extraordinaires qu'on sait utiliser pour rendre le cristal parfait. Vide d'impureté, on y a travaillé 30 ans, il y a 30 ans de travail immense, vide d'impureté, vide de défaut. Ça, on a le sulfure, donc c'est le travail. Et c'est effectivement un matériau assez rare. Il n'y a pas d'autres matériaux aujourd'hui qui permettent ça. Troisièmement, le vivant, les principes sont différents. Je dirais qu'effectivement, on sait bien que les synapses, les neurones communiquent par échange d'ions, des membranes qui s'ouvrent. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlent les gens aujourd'hui dans l'électronique moléculaire. L'électronique moléculaire, c'est des molécules qui essaient de singer la microélectronique, je crois qu'ils n'y arriveront pas. Le cerveau, le neurone, ça c'est vraiment intéressant. Mais je dirais plus que le principe de fonctionnement sur des ions, donc des charges positives, des grosses charges, des atomes, des noyaux, je crois que c'est plutôt l'organisation qui est extrêmement différente. Une connectivité de 1000 par neurone, 1000 synapses, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui en électronique. Je vous ai montré les meilleurs échanges de niveaux. Les meilleures puces ont 8 étages de connexion. Mettons qu'on arrive à 50 connexions, c'est bien un maximum. C'est la connectivité, je pense, qui fait l'efficacité de la pensée vivante.
Madame.
Bonjour. Vous avez expliqué donc les caractères isolants, semi-conducteurs et métalliques à partir de la structure cristalline des matériaux. En ce cas-là, comment peut-on comprendre le caractère isolant du verre ? Qui est un amorphe,
c'est un amorphe, ce n'est pas un cristal. Bah, c'est des principes un peu différents. Ça ressemble un petit peu. Il y a des espèces de bandes d'énergie, mais qui ne sont pas aussi bien définies que ce que j'ai décrit. Il n'y avait pas de coupure nette. Et du coup, les derniers électrons qui remplissent ces bandes pas très bien définies sont dans des états qui ne se projettent pas, qui sont localisés. Mais c'est toute une théorie très différente.
Monsieur ?
À surprise, il y a de vos transparents. Vous indiquez le 0,1 micron, qui est comme une limite de ce qu'on souhaite faire dans les quelques années à venir concernant la miniaturisation. Est-ce que c'est intentionnel ou bien c'est dû à des limites instrumentales pour tracer des traits ?
Non, alors, c'est une bonne question. C'est parce que ces transparents sont un peu anciens, certains. Ils ne sont pas tous faits à la même époque, exactement. En fait, les limites physiques, c'est des limites qui se déplacent avec le temps. Comme je l'ai montré, on s'est beaucoup trompé sur les limites physiques au cours du temps. Et donc, dans les années 90, dont beaucoup de ces transparents, à l'époque à laquelle beaucoup de ces transparents ont été faits, on pensait que c'était 0,1 micron. Je vous ai montré des transparents où c'était 0,05, la moitié de ça. Et je vous ai dit, en fait, sans problème, le consensus, c'est 0,02, 200 angstrom, 60 angstrom de large, hein, c'est pas très grand. Mais moi, je pense qu'on ira plus loin. C'est-à-dire que c'est l'idée, c'est ce qu'on maîtrise. Hein. Comme je dis, on fait tout ça parfaitement. Ce qu'on maîtrise jusqu'à maintenant, on se dit, on ira jusqu'à 200 angstrom, 0,02. Mais je pense qu'on ira plus loin. Encore une fois, les limites varient avec le temps.
Mais industriellement, aujourd'hui, sommes-nous capables d'aller jusqu'à 0,1?
Alors, 0,1, sans problème. Le consensus, encore une fois, si vous lisez, alors allez sur le site, allez voir le site ITRS, où il y a le roadmap, c'est un document donc, qui décrit l'avenir de la microélectronique en 300 pages. Et vous verrez dedans, il y a ce qui est établi, ce dont on pense qu'on saura le faire et ce pour quoi on cherche des nouveaux concepts. Alors, pour arriver à 0,05 ou 0,02, il y a un certain nombre de blancs. Effectivement, on cherche des concepts, mais on se dit qu'on y arrivera. Une des grandes difficultés, d'ailleurs, c'est la pureté des produits chimiques. La pureté elle-même est un gros problème.
On va prendre une dernière question, monsieur.
Oui, ça concerne en fait l'application des transistors. Y a-t-il d'autres applications que la microélectronique ? Je pense, en l'occurrence, dans l'industrie, on parle des transistors de puissance. Est-ce que ça a un rapport avec...
C'est le même principe de fonctionnement, sauf qu'ils sont beaucoup plus gros. Alors là, il n'y a pas besoin de les faire tout petits. On les fait... Il y en a dans des locomotives de TGV, donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas tout à fait la même taille, c'est des puissances colossales. Bien sûr, c'est utilisé dans bien d'autres endroits, le transistor. J'ai parlé de ceux qui pilotaient notre révolution et la révolution à venir de la communication et de l'information. Mais c'était un exemple, une illustration de ce qu'avaient permis les semi-conducteurs et les transistors. Il y a d'autres applications, mais je pense qu'elles sont moins bouleversantes quand même.
Bien, merci beaucoup. Vous avez...